Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les États-Unis vont quitter l'accord de Paris sur le climat. Washington a notifié hier les Nations Unies de cette intention. Explication de notre correspondant sur place.
Une marche organisée à l'occasion de funérailles a dégénéré en Guinée. Le pays est traversé par une crise sociale et politique. Reportage à Conakry.
Le compteur des soutiens à un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'aéroports de Paris n'augmente pas beaucoup malgré la mobilisation des militants sur le terrain. Exemple dans l'est de la capitale. Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le centre Georges Pompidou de Shanghai. Il n'est pas aussi connu que le Louvre à l'étranger, mais il fait partie de ces musées français qui s'internationalisent, nous dira un spécialiste. Et la question du jour, Guillaume ?
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Margot, détournement des aides agricoles européennes. Faut-il renforcer les contrôles ? On posera la question à Jean-Christophe Bureau, qui est professeur en économie à Agro Paris Tech.
C'était attendu et la France dit le regretter. Les États-Unis ont officialisé hier leur sortie de l'accord de Paris sur le climat. Le retrait sera effectif dans un an, au lendemain de la prochaine élection présidentielle américaine. Pendant un meeting hier soir dans le Kentucky, le président Donald Trump s'en est félicité.
Nous avons mis un terme à la guerre qui était menée contre les producteurs américains d'énergie. Nous sommes aujourd'hui le plus grand producteur d'énergie au monde. Et nous avons mis fin à la guerre menée contre notre magnifique charbon propre. J'ai annoncé le retrait des États-Unis de cet accord de Paris sur le climat, qui était horrible, coûteux et à sens unique. Demandez-leur à Paris comment ils se débrouillent avec ça. Pas très bien. J'ai aussi annulé le moratoire sur le charbon décidé par Barack Obama.
Obama's federal coal moratorium.
On va remettre nos formidables mineurs au travail.
Les États-Unis sont le seul pays à se désengager de ce texte, signé en 2015 par 197 autres, jusqu'à la Corée du Nord. À Washington, la correspondance de Grégory Phillips.
Au printemps 2017, lors d'un discours prononcé dans la roseraie de la Maison-Blanche, Donald Trump avait annoncé son intention de se retirer des accords de Paris. Cette fois, la procédure est donc enclenchée. Le département d'État a déposé sa requête auprès des Nations Unies, expliquant que le fardeau économique de ces accords sur le climat pesait sur les ouvriers, les entreprises et les contribuables américains. Mais ce retrait ne sera pas effectif avant le 4 novembre 2020, lendemain de la présidentielle, et les Américains participeront encore à la COP25 organisée en fin d'année à Madrid. Évidemment, l'annonce de ce retrait n'est qu'une étape technique. Les associations américaines de défense de l'environnement disent que cette administration a déjà renoncé à combattre le réchauffement climatique à grands coups de dérégulation. Les États-Unis auront la possibilité de revenir dans cet accord de Paris si d'aventure Donald Trump devait quitter la Maison-Blanche dans un an. Tous les candidats à l'investiture démocrate s'y sont d'ailleurs engagés en cas de victoire.
Donald Trump visé sans être nommé dans un discours d'Emmanuel Macron. Le président français en visite à Shanghai a plaidé aujourd'hui pour un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Un accord qui, dit-il, préserve les intérêts des autres pays, à commencer par ceux de l'Union européenne. L'UE est le premier partenaire économique de Pékin. La guerre commerciale ne fait que des perdants, a-t-il déclaré, alors que Pékin et Washington s'affrontent depuis un an et demi à coups de hausse de droits de douane. De nouveaux affrontements ont éclaté hier en Guinée entre manifestants et forces de l'ordre. Ce pays d'Afrique de l'Ouest connaît un mouvement de contestation depuis la mi-octobre contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Celui-ci souhaite remanier la constitution pour aller au-delà des deux mandats autorisés. Hier, à Conakry, des familles qui ont perdu des proches pendant les manifestations ont tenté de les inhumer. Mais pendant le cortège, la situation a dégénéré. Deux personnes sont mortes. Le reportage de Carole Valade.
Plusieurs milliers de personnes accompagnent le cortège funèbre. Les militants du Front National de Défense de la Constitution, qui regroupe opposition politique et société civile contre un troisième mandat du président Condé, sont aux côtés des familles des victimes. Obouma Madoubari.
Le 14 et le 15, deux de mes frères ont été assassinés à bout portant. Ce n'étaient pas des manifestants. C'était des gens qui étaient dans leur maison. Je ne peux pas demander justice. Parce que je sais que justice ne sera pas faite en République de Guinée.
À proximité de la mosquée, les premières grenades lacrymogènes éclatent, les jeunes répliquent par des jets de pierre, les canons à eau entrent en action. C'est Loud Alain Diallo, chef de file de l'opposition.
Nous sommes là aujourd'hui pour rendre hommage à ces compatriotes qui ont fait le sacrifice ultime pour que triomphe dans notre pays la démocratie et l'état de droit.
Sidya Touré, président de l'UFR, troisième force politique du pays.
Nous venons crier notre colère par le fait que des Guinéens doivent avoir le droit de pouvoir s'exprimer sans être froidement abattus. Donc il y avait une volonté délibérée de tuer des gens, de les effrayer, de mettre une chape de plomb sur la Guinée.
Pendant la prière, l'étau se resserre autour du lieu de culte, mais les manifestants parviennent à sortir les cercueils, chacun recouvert d'un drapeau guinéen. Les manifestants forcent le barrage, mais la police intervient à nouveau dans le cimetière. On entend des coups de feu, gendarmes et policiers rentrent dans les quartiers, armés de frondes et de pierres, parfois d'armes à feu, selon deux témoins. Les affrontements se poursuivaient encore en fin d'après-midi.
Carole Valade. La Chambre des communes a un nouveau speaker. Le député travailliste britannique Lindsay Hoyle a été élu hier soir par ses pairs. Il succède à John Bercow, personnage haut en couleur. Il était donné favori et va notamment conduire les débats sur le Brexit depuis son fauteuil vert.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Le Premier ministre Édouard Philippe annoncera demain une vingtaine de mesures sur l'immigration.
Le gouvernement souhaite notamment instaurer un délai de carence de 3 mois pour les demandeurs d'asile avant d'accéder à la protection universelle maladie, c'est-à-dire la sécu de base. Jusqu'à présent, ils y ont droit dès le dépôt de leur demande. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h de Clara Lecoq-Réal. Privatiser, c'est voler, voilà le nom d'une opération de communication qui sera lancée aujourd'hui sur les réseaux sociaux par une quinzaine de partis et d'organisations de gauche. Ils s'opposent à la privatisation d'Aéroports de Paris. Une consultation pour la tenue d'un référendum d'initiative partagée a été lancée il y a maintenant 5 mois sur le site du ministère de l'Intérieur. Elle a recueilli près de 900 000 signatures. On est encore loin des 4 700 000 nécessaires. Pourtant, sur le terrain, les militants sont mobilisés, notamment dans l'est de Paris où s'est rendu Stéphane Robert.
Ils sont plusieurs dizaines, Place de la Nation, à distribuer des tracts et à tenter de faire signer sur leur ordinateur.
Vous avez une carte d'identité ou un passeport sur vous ?
La consultation en faveur d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris.
Et voilà, vous voyez, votre soutien Merci. A bien été pris en compte.
5 mois après le lancement de cette consultation, on en est à 900 000 signatures à peine, alors qu'il en faut 4 700 000 pour déclencher le référendum. Et si ça ne prend pas, selon ce militant anti-privatisation, c'est parce que les médias n'en parleraient pas assez et parce que la procédure sur le site serait trop compliquée.
C'est pas possible, on perd un temps fou. Les gens qui arrivent pour la première fois, ils y passent un quart d'heure, obligés. Tout est fait pour, on dirait, que ça n'avance pas aussi vite qu'on voudrait.
Pour cette autre militante, il y a surtout un manque d'entrain de la population.
Là, on sent quand même qu'on rame et qu'il y a beaucoup de gens qui sont craintifs et qui disent que ça ne servira à rien, qui sont désabusés, qui disent de toute façon qu'on vote ou qu'on ne vote pas, ce sera toujours pareil. Moi, j'explique ça comme ça, parce que ce sont les retours qui nous sont opposés.
À Paris, Place de la Nation, ce sont essentiellement des militants de gauche qui se mobilisent. Mais à Meaux, en Seine-et-Marne, c'est aussi la droite, et notamment le député Les Républicains Jean-François Parigi, qui lui non plus ne comprend pas bien pourquoi il y a si peu de signatures.
C'est ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, quand on discute avec les gens, on a plutôt une opposition à cette privatisation, mais ensuite, le pas n'est pas fait. Alors je pense qu'ils sont, c'est un peu bizarre, je pense qu'ils savent que c'est important, mais comme souvent, on attend que le voisin le fasse à sa place plutôt que de le faire directement.
D'autres avancent également qu'une minorité de Français prennent l'avion. En tout cas, contrairement à ce qu'indiquaient plusieurs sondages au printemps dernier, bien peu semblent être concernés par cette privatisation.
Il faudra prendre l'avion pour visiter le centre Pompidou en Chine. Le nouveau musée est inauguré aujourd'hui par Emmanuel Macron avant son ouverture au public vendredi. On en parlait au début de ce journal. Le président français est en visite en Chine. Un bâtiment donc de 25 000 mètres carrés dans le récent quartier culturel de Shanghai, le West Bund. C'est le dernier exemple en date de la stratégie d'internationalisation des grands musées français, nous explique François Mérès, muséologue et professeur à l'université Paris 3.
Il y a quand même une raison qui est évidemment financière. C'est d'abord effectivement parce que les pouvoirs publics ne financent pas autant le musée qu'il y a effectivement depuis une vingtaine d'années une volonté d'aller de plus en plus vers le marché. Et c'est vrai que quelques établissements peuvent se le permettre parce qu'ils ont cette logique où ils sont beaucoup plus implantés dans le marché, parce qu'ils accueillent notamment énormément de visiteurs, etc. Et donc, le Centre Pompidou, dans cette perspective, joue un rôle un petit peu différent. C'est-à-dire, il n'est pas sur le même terrain, il est moins connu en quelque sorte aussi. On pourrait dire que Orsay ou le Louvre, ça n'est pas encore un incontournable, au même titre on pourrait dire que le MoMA ou la Tête Moderne, même si évidemment il accueille beaucoup de visiteurs, il n'est pas exactement à ce même niveau. Mais en même temps, et ça c'est le point très très différent des autres, Centre Pompidou a en revanche une collection tout à fait remarquable et une collection qui est plus vaste, qui lui permet plus facilement d'envisager ce jeu des succursales. Et donc le projet de Shanghai est un projet ancien sur lequel il s'était positionné depuis pas mal de temps et qu'il est possible pour faire pour un musée d'art contemporain, parce qu'il y a d'abord, il dispose d'une très très grande collection qui lui permet justement de ne pas déposséder le navire amiral de manière très importante, et puis aussi parce que les œuvres qui sont présentées sont un peu moins fragiles que celles par exemple qui sont présentées au Louvre.
Le Centre Pompidou, qui en plus de Paris est déjà installé à Malaga en Espagne et à Bruxelles en Belgique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site franceculture.fr. Les musées français mettent le cap à l'international. C'est un article signé Maxime Tellier. Le projet de budget 2020 du ministère de la Transition écologique a été adopté cette nuit par l'Assemblée nationale. Il est en hausse de 2,6% et s'élève à un peu plus de 32 milliards d'euros. C'est du saupoudrage pour les députés du Parti communiste. Une insulte à notre avenir selon la France insoumise, une déception pour les socialistes. Contre l'avis du gouvernement, l'Assemblée a voté la création de 5 postes supplémentaires à l'autorité de sûreté nucléaire et 8 dans les parcs nationaux. Le prestigieux prix Goncourt a été attribué hier à l'écrivain Jean-Paul Dubois pour son livre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » aux éditions de l'Olivier. Jean-Paul Dubois qui sera l'invité de Guillaume Herner à partir de 7h40. De faibles chutes de neige sont attendues par endroits dans les Alpes, des 1600 mètres d'altitude. Météo France prévoit aussi de la pluie. En Corse, sur l'ensemble du pays, le temps sera instable. Il fait ce matin entre 6 et 10 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 16 en Corse. Cet après-midi, les températures maximales seront de 11 degrés à Lille, 12 à Paris et Nantes, 13 à Grenoble et Bordeaux, 18 à Nice et Ajaccio.
Merci Margot Delpierre.